Dieu nous rassemble. Nous venons de vivre tout particulièrement ce corps qu'il forme. Ce n'est pas un corps statique, c'est un corps en mouvement. Et ce qui nous met en mouvement, c'est la parole de Dieu. Nous allons la lire à présent. Si vous êtes habitué de cette église, vous savez qu'en ce moment, je lis avec vous la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous approchons de la fin de cette épître. Nous en étions au chapitre 3. Nous en étions arrêtés au verset 9. Nous prenons à partir du verset 10. Vous pouvez soit écouter la lecture, soit suivre dans votre Bible, faire les deux. Enfin, voilà, vous êtes libre. De Timothée, chapitre 3, à partir du verset 10. « Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma persévérance, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutées. Or, ceux qui sont méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et ils seront eux-mêmes trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Je te le demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts, je te le demande au nom du Christ qui va se manifester et de son règne. Proclame la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leurs mauvais penchants et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à l'annonce de la bonne nouvelle et accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu. En ce qui me concerne, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. Mais toi. Dans ce texte, il y a cette interpellation. Mais toi, deux fois, même trois. Mais toi. Il y a une opposition qui est là, et on sent bien que cette opposition, elle ne tombe pas comme ça. Elle fait le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois, le début du chapitre 3. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La dernière fois, nous parlions de ceux qui sont dans l'opposition. Paul avertissait Timothée dans cette lettre qui est assez personnelle, où Paul encourage son disciple, celui qu'il a laissé à Éphèse, et qui lui dit « Dans ces jours qui seront les derniers, ce sera difficile. » Parce que les gens n'auront aucune moralité, et même les chrétiens. Et plus encore, ils iront l'enseigner, répandre leur façon de vivre, se justifier et essayer d'en gagner d'autres. Mais toi, ne fais pas pareil. La dernière fois, nous finissions la prédication avec cette application où je vous invitais à vous méfier. Je disais que tout ce qui est dans l'Église, tout ce qui parle dans l'Église n'est pas forcément digne de confiance. Une phrase qui est un peu troublante. Dans ce cas, qui croire? Et Paul, de la même façon, lorsqu'il dit « fais attention à ce que tu écoutes », c'est troublant. Du coup, toi, Paul, qui parles, pourquoi t'écouterais-je, toi, plus qu'un autre? Pourquoi serais-tu digne de confiance plus qu'un autre? Ça pose cette question, et c'est celle qu'aborde Paul. Comment juger de la confiance qu'on peut mettre dans un enseignement? Mais toi, tu m'as vu. Timothée est collaborateur de Paul. Il a passé du temps avec lui, il l'a vu en action, il le connaît. Et quant à son enseignement, ce que Paul enseigne, il le connaît complètement. Ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir, quelque chose de superficiel par lequel Timothée pourrait se laisser éblouir. C'est quelque chose qu'il a suivi depuis longtemps, qu'il connaît. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle Paul fait référence, il lui dit « Tu m'as vu. Tu as vu ma conduite, mes projets, ma foi, ma persévérance, mon amour, ma fermeté. » Paul parle de sa vie. « Tu as vu ma vie. Tu as vu la façon dont je vis. » Paul propose de juger son comportement, de faire confiance à son comportement au regard de sa vie. Parce que être chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit en nous. Et avoir une vie en chantier permanent, une transformation permanente. Le Saint-Esprit façonne le caractère. C'est lui qui fait grandir la foi, l'amour, la fermeté, l'assurance. C'est lui qui transforme nos vies. Et ça se voit dans la conduite de nos vies. Ça se voit dans les projets que nous formons. Paul invite à regarder l'homme pour juger de sa prédication. Ce ne sont pas juste des paroles comme ça, c'est des paroles qui produisent un effet. Et celui qui parle doit être le premier transformé. Timothée connaît l'enseignement, il connaît la vie de Paul, il connaît aussi les souffrances et persécutions par lesquelles il passe. Et c'est quelque chose qui est souvent dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Avec la fidélité à Jésus-Christ viennent les persécutions. Jésus lui-même avait prévenu, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. L'enseignement authentique, celui qui est lié à Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui s'écoute facilement. Toujours quelque chose qui heurte, toujours quelque chose qu'on ne veut pas entendre et qu'on veut faire taire. Il y a un moment ou un autre où il génère du rejet et où la persécution arrive pour ceux qui sont fidèles. Comment juger d'un enseignement en regardant l'enseignant? C'est la première direction, le premier point que Paul propose. Le deuxième, c'est en regardant l'Écriture. Il le dit de façon très directe. Les Saintes Écritures peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Non seulement l'Écriture enseigne, elle apprend la vérité, elle explique le plan de Dieu, comment il s'est réalisé en Jésus-Christ, ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions suivre la direction que le Saint-Esprit nous fait prendre. Donc elle nous enseigne, mais également elle nous corrige. Elle corrige les fautes qu'on peut commettre lorsqu'on est embourbé dans une attitude néfaste pour nous la révéler. Et la révéler, prendre conscience, c'est le premier pas pour sortir de cette habitude mauvaise. Elle corrige également l'erreur face à un faux enseignement. Elle vient contredire et réorienter vers l'enseignement saint en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de la lire. Si, en la lisant, pour peu qu'on retienne ce qu'on lise, on peut apprendre. Mais pour changer son comportement, pour faire face aux erreurs, on a besoin de la lire et la relire pour avoir un éclairage constant sur la réalité de ce qu'on vit, de ce à quoi on est confronté jour après jour. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. C'est nécessaire pour Timothée de lire, relire la parole de Dieu. C'est nécessaire parce que il est prédicateur, il est pasteur, il a besoin d'être équipé pour sa tâche. L'Écriture à ce site particulier, c'est que c'est une autorité extérieure. Lorsque quelqu'un part, il forme son discours, mais avec la Bible, on a quelque chose d'extérieur, quelque part de neutre, auquel chacun peut aller et voir par lui-même. C'est pour ceci qu'elle est particulièrement importante pour juger d'un enseignement et de s'il est fiable ou non. C'est un avis extérieur. Et donc, la connaître, la maîtriser, nous aide à nous repérer. À qui faire confiance? Aux Saintes Écritures, à une vie en accord avec l'enseignement proclamé. Voici ce que dit Paul dans la première partie de la lecture que nous avons faite. Il y a un tournant au chapitre 4 avec le verset 1. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture, très solennel. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui vivra les vivants et les morts. Je te le demande au nom du Christ qui va se manifester et de son règne. Waouh! Paul rigole pas, il attire l'attention. C'est là le plus important de ce que je vais te dire. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Face aux faux discours qui sont là, partout, face au monde qui devient de pire en pire, ceux qui ont le véritable enseignement, ceux qui sont carrés, doivent parler. Et Timothée est bien enseigné. Il a été enseigné par Paul, il l'a vu. Il ne peut pas se payer le luxe de se taire. Proclame. Proclame la parole. Il est intéressant ce verbe, proclamer. Paul ne dit pas « enseigne la parole ». Et je trouve qu'il y a une différence notable entre la proclamation et l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a une collaboration entre l'enseignant et l'étudiant. L'étudiant vient pour apprendre quelque chose, il est participant. L'enseignant a quelque chose à transmettre, un savoir. Il cherche à le faire adopter par l'auditoire. Son but, c'est de faire progresser les étudiants. La proclamation, c'est autre chose. La proclamation, c'est annoncer ou déclarer hautement quelque chose auprès d'un vaste public. Je dis ce que j'ai à dire. Je déclare la vérité. Et le résultat importe peu. Ce qui compte, c'est que la vérité soit proclamée. Voilà ce qui est demandé à Timothée, de proclamer la parole de Dieu. Pourquoi cette approche? Cette approche de proclamation. Je vois deux raisons. La première, c'est qu'elle laisse une certaine liberté à l'auditoire. Celui qui proclame annonce le message et la pression est moindre sur ceux qui écoutent. Chacun est libre de se positionner. Je t'ai annoncé ce que je crois, à toi de voir ce que tu en fais. C'est agir finalement un peu comme le fait la parole de Dieu. Elle est là, présente. Chacun la lit et voit ce qu'il en fait pour lui-même. Elle ne s'impose pas. Elle est là, transmet sa bonne nouvelle à qui veut la recevoir. Deuxième raison pour avoir une approche de proclamation plutôt que d'enseignement, c'est que, Paul l'a dit, l'auditoire est peu coopératif. Paul rappelle que les temps viennent où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Et à partir du moment où ceux qui sont là, qui écoutent, qui sont autour de nous, n'écoutent pas vraiment, ne sont pas vraiment coopératifs, il ne reste que la proclamation, déclarer la vérité telle qu'elle a été reçue. Et pour cela, Paul dit de le faire en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et forcément, pour travailler comme ça, en toute occasion, favorable ou non, on ne peut avoir qu'une approche déclarative, une approche de proclamation. Mais quand même, il ne s'agit pas de tout balancer sans se soucier des autres, sans soin. Paul le dit de le faire avec assistance par rapport à l'occasion, qu'elle soit favorable ou non, de ne pas avoir peur d'y retourner également. Il dit de le faire de façon persuasive. Il ne s'agit pas juste de balancer son discours et puis je peux passer à autre chose. Non, il s'agit de prendre le temps d'être pertinent, de travailler le message, de chercher à faire le lien entre les préoccupations de ceux qui vont entendre la proclamation et ce que vient apporter l'Évangile. De le faire aussi, Paul le dit, à travers des reproches ou des encouragements. C'est-à-dire que ce message, il n'est pas déconnecté de tout, mais il est lié au comportement des personnes. L'Évangile se voit à travers les actes. Et celui qui proclame doit se positionner par rapport à ce que vivent les personnes, avec des retours positifs comme négatifs. Il ne s'agit pas de juste répéter « repentez-vous, tas de pécheurs », mais aussi savoir discerner dans les vies l'Évangile qui avance et qui grandit. Proclame jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et Paul sait de quoi il parle parce que cette invitation à la persévérance, il la lie à sa propre fin. Je vous avais dit que cette lettre, certainement la dernière que nous ayons écrite de la main de Paul, il sent sa fin approcher et on le sent bien dans ce passage. Moi, j'ai fini ma course. Paul sent la fin approcher et il fait le bilan. Et sa mort prochaine, il est en prison et il sait qu'il va être condamné à mort. Sa mort prochaine, il la voit comme un sacrifice pour la cause de l'annonce de l'Évangile, un sacrifice pour Dieu. C'est ce qu'il veut donner, donner sa vie à Dieu. Comme, je vous le rappelle, nous le chantons régulièrement dans nos chants, avec joie. Littéralement, il s'apprête à donner sa vie pour Dieu. Et cette perspective, pour lui, elle n'est pas triste. Ce n'est pas un sujet de tristesse, mais c'est un sujet de fierté. Fierté d'avoir tenu bon. Les occasions de chute sont nombreuses. Les possibilités de ne pas rester fidèle à Dieu sont nombreuses. Il est fier d'avoir tenu bon. Il est fier aussi d'avoir œuvré, d'avoir travaillé pour Dieu, d'avoir fait sa part de proclamation, et une belle part. Paul a fait le tour de la Méditerranée, il a implanté des églises là où il est passé, il a formé des collaborateurs qui poursuivront la tâche après lui. Il est fier de ce qu'il a pu faire avec Dieu et il attend la récompense promise par Dieu. C'est ça sa motivation, faire plaisir à son Seigneur. Et il sait que, après sa mort, il le verra et il verra la satisfaction envers son serviteur. Donc ce n'est pas avec tristesse, mais avec fierté qu'il voit cela et il utilise cette fierté pour encourager Timothée à faire de même, proclamer jusqu'au bout. Alors, quand on lit ces textes dans la deuxième épître à Timothée, je pose toujours cette question. Et pour nous, qu'en retenir? Surtout si on n'est pas pasteur, Paul donne des conseils à un leader d'église, à un jeune pasteur, que retenir pour nous? J'aimerais proposer deux pistes, comme à chaque fois, deux pistes pratiques. La première, c'est celle de lire la parole. Il y a cet encouragement, ce verset célèbre qui dit que toute écriture est utile. Et la dernière fois, nous étions avec cette question, à qui faire confiance? Beaucoup parlent, à qui pouvons-nous faire confiance? Qui pouvons-nous écouter? C'est une question un peu déstabilisante, hein. Je ne sais pas comment vous l'avez reçue la dernière fois. Quand le prédicateur dit que vous ne pouvez pas faire confiance aveuglément à ceux qui parlent, moi y compris, qui écouter? Paul montre un chemin. Les Saintes Écritures et une vie en accord avec le message. Parce que cette vie est le résultat de ce que la personne croit et de sa sincérité. Je relis ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à la manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce livre écrit il y a une vingtaine de siècles est utile pour nous aujourd'hui. Il vient nous guider dans notre attitude avec son conjoint, l'attitude pour éduquer ses enfants. Il vient nous aider pour faire face à des conflits qui durent avec des voisins, avec des collègues, avec notre famille. Il vient nous aider pour affronter les grandes questions de la vie. Quel métier? Quel conjoint? Qu'est-ce que je vais laisser après moi? Il vient nous aider aussi pour traverser la pandémie actuelle. Il parle de tout cela. Mais il n'aborde pas ces sujets directement. Pas comme un livre de recettes qui viendrait dire que faire dans telle ou telle situation. Pas comme un livre de loi qui liste ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Il est utile pour toutes ces situations. Et c'est pour ça qu'il faut lire et relire la Bible. Pas seulement pour la connaître, mais aussi pour, dans toutes les situations de la vie, avec l'éclairage de la situation que je suis en train de vivre en ce moment. Voir comment elle vient me déplacer, ajouter quelque chose, à la fois apprendre et à la fois me corriger, me réorienter. Elle est parole de Dieu, pas seulement parole au passé, mise par écrit une fois pour toutes. Elle l'est, mais pas seulement ça. Elle est également parole au présent, qui parle aujourd'hui, jour après jour, et qui guide pour savoir qui écouter et comment faire le tri. Je pense que nous avons là une piste que nous pouvons suivre. La deuxième, c'est nous aussi de prendre notre part dans la proclamation. Alors, certes, Timothée, qui est invité solennellement à proclamer la parole, Timothée a un rôle particulier. Il a la charge d'une église, il doit le faire tout particulièrement, c'est son appel. Mais s'il y a cette urgence que Paul décrit, si des farfelus prennent la parole, ceux qui connaissent la vérité doivent la proclamer, mes amis. Si vous connaissez la vérité, vous devez la proclamer. Et Paul le dit, que l'occasion soit favorable ou non. Ce verset proclame la parole, que l'occasion soit favorable ou non. Il est parfois utilisé pour nous inviter à aller dans la rue, aller sur les places, parler à des inconnus et essayer de leur partager l'Évangile. C'est une bonne chose que de le faire, mais je crois que ce verset ne parle pas que de ça, et peut-être même pas en majorité de ça. Parfois, on a moins de mal à arrêter des inconnus dans la rue, des personnes qu'on ne reverra jamais, que de partager quelque chose à un collègue à la machine à café, que je reverrai demain. Et dans ce cas-là, on peut se dire, non, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment. Une autre fois. On peut toujours attendre le bon moment sans qu'il ne vienne jamais. Et Paul invite à provoquer ce moment, à saisir toutes les occasions pour proclamer la vérité. Alors, la question qui se pose, c'est que dire? Vous avez peut-être cette objection, je ne suis pas équipé, je ne suis pas formé, je n'ai pas assez de connaissances. Là encore, on n'est jamais prêt. On n'a jamais réponse à tout. Et cette invitation, que l'occasion soit favorable ou non, c'est une invitation à se lancer. Que dire? Après tous ces dimanches, toutes ces prédications écoutées, tous ces chants que nous connaissons par cœur, nous n'aurions rien à dire? On peut proclamer simplement, je crois en Jésus. Je crois qu'à travers lui, je suis sauvé. Je crois qu'il a pardonné mes fautes et qu'il m'a réconcilié avec Dieu. Je crois qu'il prend soin de moi. Je crois qu'il s'occupera de moi après ma mort. Je crois qu'il s'occupe déjà de moi aujourd'hui. Et même quand c'est difficile, il se tient à côté de moi. Je crois qu'il me transforme pour me rendre tous les jours plus semblable à ce qu'il souhaite. Je crois qu'il t'aime et qu'il veut te sauver, toi aussi. Nous avons cette invitation à saisir les occasions qui se présentent à la machine à café, sur le palier, autour de la table du repas de famille, lorsque une problématique sort, savoir les saisir, saisir l'occasion, favorable ou non, pour proclamer la parole. Et nous ferons face à des objections, et même à des objections auxquelles nous ne saurons pas répondre. Ce n'est pas grave. Quand une objection est là, on y répond comme on peut, et puis on peut y réfléchir pour la prochaine fois, en parler à d'autres, au pasteur, ou mieux, au groupe de maison, qu'on puisse y réfléchir ensemble et être ensemble mieux équipés pour la prochaine fois. Mais cette invitation, elle nous est adressée à nous aussi. Et s'il y avait une urgence pour Timothée, comprenez bien que l'urgence est toujours là pour nous aussi. Le monde se perd. On ne sait pas où il va. Nous vivons quelques années et après quoi? Le monde se perd et Dieu veut le sauver. Et pour ceci, il a envoyé Jésus, qui a transmis la mission à ses disciples, dont nous sommes. À la suite de Jésus, il n'y a qu'un seul type de personne, qu'un seul type de croyant, les disciples. Le texte nous interpelle. Et toi, mets-toi. Nous aussi, nous devons entendre cet appel, remplir notre rôle. Toi, remplis ton rôle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous vivons jour après jour et nous faisons face à toutes sortes de choses avec lesquelles nous essayons de jongler. Et je te remercie pour ce texte écrit par l'apôtre Paul quand il était en prison, en train empêché de faire toutes ces choses qui nous occupent. Sentant la mort s'approcher à se concentrer sur ce qui était essentiel, et j'aimerais te prier qu'à travers le rappel que nous recevons, que nous sachions, nous aussi, dans notre vie, faire la place pour l'essentiel. Aide-nous, partout où nous allons, là où est notre vie, dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre famille, aide-nous à saisir les occasions, favorables ou non, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce qu'il sauve, de ce que nous sommes pardonnés en lui. Et Seigneur, aide-nous à persévérer dans la lecture de ta parole pour toujours mieux te connaître et être toujours mieux équipés pour notre vie et notre mission de disciples. Te prions au nom de Jésus, merci parce qu'il marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.